Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est tous les soirs une heure de discussion avec un ou une artiste ce soir, Olivia Rosenthal.
Un tango, une danse, un baiser.
Ça y est, je
suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Olivia Rosenthal.
Ils sont neuf et ce n'est quand même pas rien de s'entendre. La nuit les rassemble et aussi une certaine indocilité, une manière d'échapper à leur ville et aux gouvernances liberticides, aux identités outre-figées, à leur famille. Ils sont neuf et ils finiront par s'appeler les bâtards parce qu'un parent les a abandonnés, parce qu'ils en ont manqué, parce qu'au contraire, un ancêtre qu'ils connaissent à peine colonise leur existence. Nuit après nuit, page après page, leur voix peuple l'obscurité et résonne. Pour la narratrice comme celle ou celui qui lit, il s'agit d'écouter sans se laisser envahir. Parce qu'écouter pourrait être une position politique, le début d'un déplacement, pour élargir le cercle de celles et ceux qui ont le temps et la place de dire qui ils sont, mais qui ne la prennent pas toute la place. Olivia Rosenthal, vous imaginez une ville qui réduit au maximum les possibilités de rencontre et vous imaginez une communauté qui se démène pour se rencontrer quand même. L'éloge des bâtards paraît en cette rentrée littéraire aux éditions Verticales. Soyez la bienvenue.
Merci.
C'est comment un livre qui sort ?
C'est un moment un petit peu... À la fois de joie, parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose, et puis en même temps, c'est le moment où on n'a plus la main, là, donc on est un petit peu stressé quand même.
Donc c'est un mélange.
C'est un mélange, comme toute chose, hein, c'est une espèce d'ambivalence. Mais là, c'est vrai que c'est le moment où je ne peux plus corriger, je suis entièrement entre les mains de ceux qui vont lire et qui vont découvrir, donc c'est vrai qu'on est un peu dépossédé.
Mais c'est pas la première fois que vous faites déposséder d'un texte, c'est pas du tout le premier roman que vous publiez. Est-ce que c'est un sentiment qui bouge, qui évolue avec les années?
Je me suis rendu compte que chaque rentrée littéraire, c'est une expérience un peu différente. Ou du moins, j'ai le sentiment que ça recommence depuis le début, que... Après, si j'interroge mes proches, ils vous diront le contraire. C'est-à-dire qu'apparemment, je dis toujours la même chose, j'ai toujours les mêmes sentiments, etc. Donc, finalement, je crois que je répète toujours la même chose avec un sentiment de variation. Donc, je suis peut-être pas la meilleure personne, la mieux placée, disons, pour dire quels sont ces types de variations. Bon, je pourrais dire simplement que la maturité n'aide pas spécialement à sortir d'une certaine angoisse.
Vous diriez ça aussi d'une sorte d'œuvre littéraire ou de projet littéraire que vous menez depuis des années, des espèces de constance comme ça, et puis des variations, Olivia Rosenthal?
Ah, sur l'œuvre littéraire, je dirais que j'ai le sentiment de m'appuyer un petit peu à chaque fois sur le livre précédent. C'est comme une espèce de... C'est comme si... Alors, je ne sais pas s'il faut dire que je descends des marches ou que je les monte, ça dépend comment on voit les choses. Mais enfin, en tout cas, il y a des marches, et puis chaque fois, l'air de rien, parce que les livres, je crois, sont assez différents, mais l'air de rien, à chaque fois, je m'appuie sur ce qui a précédé comme une espèce de voilà de construction. En fait, j'ai le sentiment d'une lente construction. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Mais après, comme je vous disais, aussi quand même d'une espèce d'éternel recommencement, d'arriver complètement nu et de plus rien savoir. Quand on recommence un livre, par exemple,
recommence au sens où on commence.
Ouais. On commence. C'est toujours la première fois, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours un sentiment d'incertitude. Est-ce qu'on va y arriver? Enfin, c'est un moment très, oui, très, très étrange de renouvellement, de toujours un premier, toujours la première fois, oui.
Patrick Deville, hier, il nous disait qu'il y avait comme des sortes de pierres d'attente ou des pierres en attente dans les livres qu'il publie. Et puis, parfois, ça va être quatre lignes dans un roman qui vont être développées peut-être 10 ans plus tard et qui vont devenir 3 chapitres conséquents avec leur importance. Et que c'est avec plus ou moins de conscience de ses actes et de son écriture qu'il le fait. Des petites choses qui sont comme ça, en attente. Quand vous parlez de monter ou descendre les marches, Olivia Rosenthal, est-ce que parfois vous surprenez à développer quelque chose qui était en attente dans un précédent roman ? Ou laisser en suspens un peu ?
Ça m'est arrivé, par exemple, quand j'ai publié Mécanisme de survie en milieu hostile, le premier chapitre, c'est un chapitre qui existait depuis très longtemps pour un livre que j'ai jamais écrit. Bon, après, je l'ai réécrit un peu différemment, mais voilà, il était comme ça, quelque part. Et puis un jour, je me suis dit, mais cette chose-là, comme quelque chose qui vous appelle. Et là, pour Éloge des bâtards, l'espèce de prologue, c'est quelque chose qui a été écrit sous une forme un peu différente, mais il y a assez longtemps, cette histoire de personnage qui est télépathe et qui lit dans la pensée des autres, quelque chose qui est un peu décalé par rapport au livre lui-même, encore que pas tant que ça, mais quand même. C'est un petit début que j'avais commencé il y a assez longtemps et qui est resté là. Vous savez, c'est comme des petites choses qui insistent, comme des petites pointes. Et puis, de temps en temps, elles reviennent.
Et leur temps arrive.
Et des fois, oui, mais je pense que des fois, non. donc, ça dépend.
On l'écoute, ce début de roman.
La première fois, c'est arrivé sur un marché. Je circulais dans les rues étroites, sales, souillées de légumes avariés et de détritus de toutes sortes. Happé par les appels, les offres beuglées ou chantées, les bousculades. Je me suis arrêté devant le stand du poissonnier. Il avait exposé ses dorades et crevettes d'élevage, ses bars pêchés à la ligne, ses morues séchées. C'est là que j'ai eu un flash, une prescience inconnue qui m'a surprise, et cette surprise n'était pas agréable. Au début, juste une alerte, même pas. Le mot alerte serait trop fort. Une piqûre ou une minuscule décharge électrique ou un indice. Le poissonnier était en face de moi, il me regardait. Il m'a demandé ce que j'allais prendre, et là, c'est arrivé. En un éclair, j'ai eu la connaissance de mon interlocuteur. Pas comme s'il me révélait quelque chose de lui, mais plutôt comme si lui était moi. J'ai été immergé d'un coup dans la vie du poissonnier, et j'ai su d'un coup ce qu'il avait enduré pour se retrouver à cette place. Je n'ai rien montré. J'ai deviné d'instinct qu'il me fallait quitter au plus vite la cohue générale. J'ai récupéré mes articles et cherché une sortie. Rejoins mon logement, passer la porte que j'ai refermée derrière moi. J'étais sauve. Il fallait que je m'organise, que j'invente une stratégie.
C'est donc le début de l'éloge des bâtards, Olivia Rosenthal, que vient de lire Romain de Bec de Lièvre. Et vous le disiez, à l'instant, c'est un début qui... Alors vous disiez qu'il dénote un peu, en réalité on pourrait aussi dire complètement l'inverse, que c'est une parfaite introduction à ce qui va se passer ensuite. Mais en tout cas moi qui me fait penser à ce que vous mettez en exergue dans les mots de Peter Hanke, et l'idée que tout commence par une forme d'organisation. Quoi. Que cette narratrice dit il va falloir trouver une stratégie, il va falloir que j'organise les choses, comme si cette prescience, comme si cette capacité de se laisser pénétrer par la vie d'autrui, il va falloir l'organiser pour que ce ne soit pas trop.
Ah, c'est drôle ce que vous dites, parce que je n'y aurais pas pensé moi-même. Mais du coup, ça me fait penser que c'est une vieille histoire, cette histoire de l'organisation. Et que j'avais écrit un livre il y a assez longtemps qui s'appelait « Puisque nous sommes vivants ». Et ça commençait par une narratrice dont la glande pinéale était affectée d'une maladie qu'elle ne pouvait pas nommer. Et pour lutter contre cette maladie, ben justement, il fallait qu'elle s'organise. Et donc, c'était une espèce de... Enfin, ce livre était une espèce de réécriture du discours de la méthode de Descartes, avec cette idée, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, quels sont... Et c'est vrai que, finalement, il y a quelque chose là, dans cette narratrice, qui rejoint cette histoire d'organisation, avec cette, je pense que oui, ça correspond à quelque chose peut-être qui est important aussi dans ma vie, qui est que le réel arrive d'une manière à la fois imprévue, il entre en fait en nous, on sait pas quoi en faire, c'est oui, on est un peu submergé. Et bon, l'écriture, c'est une manière de l'organiser quand même. Et peut-être que là, voilà, ça raconte ça. C'est-à-dire aussi c'est comment on va s'y prendre pour faire quelque chose avec tout ce qui nous arrive. Donc, oui.
Et toutes ces vies qui entrent, en fait. Au départ, ça s'est passé comme ça, c'est arrivé sur le marché. D'un seul coup, le poissonnier n'est plus un étranger, il est à l'intérieur du corps et de l'esprit de la narratrice. Je vais quand même relire cette petite exergue du grand Peter Hanke. « Pour un objet en ordre, tu n'as même pas besoin d'une phrase. Pour un objet en ordre, le mot pour l'objet suffit, ce n'est qu'avec un objet en désordre que commencent les histoires. » Donc c'est presque à l'inverse, quoi. C'est l'ordre et le désordre dont il va être aussi question dans L'éloge des bâtards. Est-ce que vous nous diriez quelques mots de la voix de cette femme, puisqu'il va y avoir ensuite plein de voix qu'on va entendre, Olivia Rosenthal?
Vous voulez dire la voix de la narratrice?
Ouais.
C'est pour ça que je disais pas que ça dénotait, mais enfin, le début, c'est comme une espèce de début qui va... Avant qu'on en revienne à cette histoire-là, qui est l'histoire de cette voix de la narratrice, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que c'est vrai que, oui, j'aime bien aussi, dans les bouquins que j'écris, essayer de produire des pistes. Et puis, ces pistes, on a l'impression qu'elles se perdent dans du sable. Et puis, ah mais non, en fait. Enfin, je rassure le lecteur. En fait, je suis pas perdue. Moi, j'organise beaucoup. Je suis très, très organisée. Donc, on va les retrouver. Mais l'idée, en fait, en écrivant, c'est aussi de se laisser, de laisser toutes ces pistes en soi et voir à quel moment elles vont réapparaître. Donc, la voix de la narratrice, en fait, c'est une voix qui va mettre du temps, en fait, à apparaître dans le livre, qui va mettre plusieurs chapitres, parce qu'en fait, son boulot, elle, c'est plutôt d'écouter. Et de réagir en fait à ce qu'elle entend et c'est très difficile d'écouter, c'est un métier aussi très très compliqué, mais c'est vrai qu'à force d'écouter, bah il y a aussi des choses qui, d'abord il faut résister à ce qu'on écoute, c'est ce qu'on a lu là, mais il faut aussi se laisser traverser par ce qu'on écoute, c'est un peu les deux choses à la fois. Et en se laissant traverser par ce qu'on écoute, parce qu'elle écoute, elle va se questionner sur les raisons pour lesquelles elle se retrouve dans ce groupe avec qui, a priori, elle n'a pas beaucoup de liens, au sens où elle n'a pas la même vie, elle n'a pas la même histoire que les autres personnages avec qui elle est. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'elle s'explique à elle-même et que donc elle explique aux autres pourquoi elle fait partie de ce groupe.
Et qu'est-ce qui va les réunir ou les séparer dans leur biographie, mais en tout cas, qu'est-ce qui l'a fait être là? Vous dites qu'il faut à la fois se laisser traverser par ce qu'on écoute et à la fois résister à ce qu'on écoute. Est-ce que c'est là ce qu'il faut entendre sous son terme de stratégie à votre narratrice première? C'est-à-dire, comment trouver la bonne porosité avec le monde?
C'est ça, comment élaborer la bonne distance, en fait? Et oui, ben, je pense que cette narratrice, comme c'est un peu mon double quand même, elle s'appelle Lily, c'est pas si loin de Olivia quand même. C'est une question qu'on se pose tout le temps, et donc c'est une manière en fait par la fiction de revenir à ça, c'est-à-dire la bonne distance avec le monde, c'est-à-dire mais tout simplement la bonne distance aussi avec son interlocuteur, puisque en fait ce livre c'est quand même une histoire de gens qui se parlent. Et comment on fait pour se parler, être en état d'entendre ce que la personne vous dit, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'entend pas quand quelqu'un vous parle, et être capable de réagir aussi à ce qu'on entend. Enfin, c'est ça dont j'avais vraiment envie de parler dans ce livre.
C'est aussi un premier texte qui parle d'un déclic. Elle dit « c'est arrivé sur le marché ». Vous, c'est arrivé comment, ce livre-là, « L'éloge des bâtards » ? Est-ce qu'il vient aussi d'un moment comme ça, de bascule, alors que, encore une fois, pour reprendre la conversation hier de Patrick Deville, il décrivait précisément l'inverse, de bouquins qu'avancent dans la brume, hyper lentement, sans brutalité. Alors que ce que décrit « L'éloge des bâtards », c'est... un moment de bascule.
Oui, parce que je pense que Patrick Deville, enfin, je ne veux pas parler à sa place, mais je pense qu'il écrit plusieurs livres à la fois.
Ouais.
Il a tout un monde quand même qui avance avec lui. Alors que moi, j'écris un seul livre à la fois. Je suis pas capable d'avoir plein de livres en même temps. Je dirais que l'éloge des bâtards, c'est comme son titre l'indique, c'est en fait ça correspond à une prise de conscience que j'ai eue. Enfin, c'est assez bête, hein, ce que je vais dire, mais c'est je me suis rendu compte un jour que j'étais entourée par des bâtards. Que vraiment mes proches, enfin mes amis, les gens que j'aimais, étaient des bâtards. Voilà, j'utilise délibérément ce terme. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, pourquoi qu'est-ce que je vais chercher en eux? Et aussi, qu'est-ce qu'ils vont chercher en moi? Enfin, qu'est-ce qui nous lie de manière aussi intime? Et de temps en temps, je découvrais, enfin, j'avais un ami, et puis il me racontait brusquement une histoire, et je me disais, ah bon, toi aussi? Et ça m'est arrivé il y a assez peu de temps. Donc, comme une espèce de, je sais pas, un destin, une fatalité, enfin, je sais pas.
Une manière de les aimanter ou d'être aimanté par eux.
C'est ça, les deux, je pense. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose là-dessus, mais vraiment, je savais pas quoi, parce que là, et il se trouve que ça n'a a priori rien à voir, mais quand même, j'ai passé il y a 2 ans ou un peu plus une semaine dans la ville de Hong Kong, qui est une ville extrêmement étrange et qui en plus est d'actualité. Et là, je me suis dit ah oui, là, je sais pas, quelque chose s'est produit sur qui est lié à l'architecture de la ville, au fait que les gens, en fait, que on a l'impression de ne rencontrer aucun individu quand on se promène à Hong Kong, ce qui est faux évidemment. C'est aussi lié au fait que je parle pas la langue, les langues asiatiques, etc. Mais on a l'impression que les individus ont été complètement écrasés par la taille de la ville, par les tours, etc. Et là, je me suis dit ah oui. Là, j'ai envie d'écrire quelque chose là-dessus. Et en fait, toutes les choses se sont... Là, on pourrait dire que petit à petit, ça, plus ce que je viens de vous raconter sur les bâtards, plus le fait d'avoir vu une exposition incroyable à Arles, qui était une exposition d'un photographe qui s'appelle Michael Wolf, dont je parle d'ailleurs dans le livre. Et en fait, il a photographié, il a vécu à Hong Kong pendant très longtemps, et il a photographié cette ville de manière absolument incroyable. Et surtout, il a fait un truc que j'adore, qu'il a récupéré, en fait... dans la ville, des chaises, parce qu'en fait, à Hong Kong, comme dans toutes ces grandes villes, il y a quand même des petits espaces intercalaires dans lesquels les gens s'installent, et puis ils mettent des petites bouteilles, et puis il y a une vie sous les tours, mais presque invisible, et il y a des chaises, en fait, les gens mettent des chaises pour s'asseoir, dans des endroits qui sont pas vraiment faits pour ça, et c'est des chaises rafistolées, des vieux trucs complètement... brinque-ballant, et il appelle ça des chaises bâtardes. Donc là, je veux dire, c'était fou. Après, je pense qu'on trouve aussi ce qu'on cherche. Mais ça, plus ça, plus ça. Donc c'est pas un déclic, mais c'est quand même une conjonction, je dirais. Une conjonction d'éléments qui font qu'à un moment, on se dit, ah oui, c'est là. C'est-à-dire, j'ai le lieu. C'est une ville qui n'a pas de nom, mais dans ma tête, c'est...
Mais qui est hyper importante.
Dans ma tête, c'est une sorte de Hong Kong. Voilà, c'est la ville dans laquelle on va vivre un jour tous. Peut-être pas moi, parce que heureusement, je suis trop vieille pour ça. Mais c'est notre devenir. Ces mégalopoles là, elles sont là, elles sont déjà là dans certains endroits du monde. Et nous, on est comme un peu préservés là dans notre Europe ancienne. Mais voilà. Donc il y a ça. Cette ville, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important ce contexte dans lequel on y a quelque chose de notre histoire qui a été perdu. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que, par exemple, quand on voit tous ces films chinois qui sont si formidables, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire que comme si les villes ont grandi trop vite par rapport aux gens. Ils n'ont pas eu le temps, en fait. Et on sent beaucoup, beaucoup ça quand on voit ces personnages de films chinois qui souffrent, en fait. Enfin, bon, ça, qui souffrent de, oui, d'être écrasés par quelque chose. À quoi ils n'ont pas eu le temps de s'habituer. Donc
Mais en même temps, vous écrivez aussi le revers de la pièce. Vous écrivez aussi la nuit au cours de laquelle cette ville, elle est presque retournée comme un gant et autre chose apparaît. Il y a d'autres espaces et il y a des récits qui deviennent possibles alors que ils ne l'étaient pas. Moi, la nuit, puisque les chapitres comme ça égrènent de nuit en nuit, m'a fait extrêmement basiquement, je le reconnais, penser à Scheherazade et à cet espace-là dans lequel elle parle pour se sauver. D'ailleurs, il y avait ce mot-là dans la lecture de Romain de Bec-de-Lièvre, cette idée-là d'être sauf. Elle parle pour se sauver. Et je ne sais pas si c'est aussi vital que cela pour le personnage que vous écrivez, Olivier Rosenthal, mais néanmoins, c'est la nuit qu'il parle.
Ah oui, c'est mais le modèle de Scheherazade ou du Décaméron ou ce genre de modèle, c'est hyper important pour le livre, c'est-à-dire vraiment cette idée que qu'est-ce que c'est, comment on retrouve quelque chose de notre humanité à un moment où on croit qu'on va être écrasé, ben c'est en parlant. Finalement, la parole, j'ai découvert, mais tardivement, hein, je dois dire, que parler est un...
C'est pourtant pas la première fois que vous travaillez là-dessus.
Non, mais non, bien sûr, mais au sens où là, c'est complètement
affiché.
C'est affiché au sens où ce que j'ai voulu faire et que j'avais pas fait encore dans d'autres livres, c'est vraiment un livre qui est pas entièrement, mais presque entièrement à la parole directe. Enfin, il y a aussi un peu de récit. D'ailleurs, ce que vous avez lu tout à l'heure était la partie un peu récit. Mais l'idée, c'est vraiment que les personnages se mettent à parler en leur nom propre et qu'on entende ces voix-là directement. C'était un peu un défi aussi, c'est-à-dire de faire un livre très 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 dialogué, ce que j'avais jamais fait à ce point-là. Et pour moi, c'était un peu... y avait une inquiétude, c'est-à-dire quelque chose que je ne savais pas si j'arriverais à le faire ou non, et c'est ça qui me plaisait aussi, c'est-à-dire de me lancer dans un endroit que je connaissais pas sur le plan de la forme de l'écriture. Et après, pour revenir à ce que vous disiez, c'est vrai que oui, là j'ai parlé de la vision un peu pessimiste de ce cadre dans lequel vivent ces personnages, mais l'histoire, c'est comment 9 personnages arrive à résister à quelque chose à quoi il pourrait normalement pas résister, qui est la puissance d'aliénation que constitue cette ville. Et comment ils y résistent? Ben, c'est en parlant, en se parlant les uns aux autres. C'est pas seulement en parlant, c'est pas en parlant, c'est en s'adressant les uns aux autres.
En parlant d'eux-mêmes.
C'est ça. Et en parlant de leur histoire, c'est-à-dire de quelque chose que les autres ne connaissent pas et qui les renvoie à un temps d'avant, parce qu'il y a tout ça aussi, c'est-à-dire que en racontant leur histoire, ils racontent leur naissance et donc ils racontent un temps qui est révolu et donc ils apprennent à se connaître comme ça. Enfin, ouais, la puissance de la parole quand on est capable à un moment donné de parler en son propre nom et de raconter sa propre histoire. Et au fond, c'est peut-être pas si facile que ça à faire.
Et c'est surtout confisqué à beaucoup d'êtres sur cette planète, en fait. C'est aussi l'un des constats qui est fait en filigrane dans tout votre texte, Olivia Rosenthal, c'est que c'est rare que les personnes qui ont la place, comme je le disais en introduction, la place et le temps de se dire eux-mêmes avec leurs propres mots. C'est un cercle extraordinairement fermé sur la planète Terre, dans le présent que nous connaissons. Mais puisque vous parlez de parole directe, je voudrais qu'on écoute Svetlana Alexievitch au micro de Sylvain Bourmeau en 2015 sur justement ce rapport entre la parole directe et l'écriture.
Но я бы сказала, что мы, в принципе, все говорим одинаково, и человек 2 раза в жизни говорит хорошо: возле смерти и в моменты любви. Вот это 2 момента, когда человек говорит, ну, тем языком души, скажем так.
Ce que je peux dire pour répondre à votre question, c'est que finalement, chacun d'entre nous, la plupart du temps de sa vie, parle de la même façon. Il y a peut-être 2 moments, 2 instants dans la vie d'un homme où c'est son âme qui parle, où nous entendons vraiment le langage de l'âme. C'est au moment où il est proche de la mort et c'est au moment où il est amoureux.
Некая такая ювелирность нужна, чтобы превратить говорение в текст.
Alors, sinon, bien, on a une façon de parler qui est similaire d'une personne à l'autre. Ce que je veux dire, c'est que je n'enjolive en aucun cas ce que j'entends.
Et вот эта концентрация, она должна соответствовать времени, человеку.
J'essaie vraiment de faire correspondre ce que j'écris à la réalité de ce que j'ai entendu. Mais en même temps, il faut un certain art pour transformer cette parole orale en texte écrit. Parce que, par exemple, lors d'un entretien, j'enregistre pour environ 50 pages de contenu, de matériel. Eh bien, dans mon livre, cet entretien ne prendra peut-être qu'une demi-page. Et ce qui est important, c'est vraiment de faire correspondre à la fois à une époque, à une personne, faire correspondre donc cette époque, cette personne et ce que j'ai entendu. Et c'est ça probablement qui est difficile.
2015 donc, la voix de cette grande auteure, autrice Svetlana Alexievitch, qui parle de la transformation de la parole qu'elle recueille. Alors, par l'enregistrement, ça aussi c'est pas quelque chose qui vous est étranger, cette réflexion, Olivia Rosenthal. Qu'est-ce qu'on écoute ? Il y a aussi dans le livre une question, et dans d'autres de vos livres, qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on est autorisé à ponctionner de la parole d'autrui ou du réel dont on parlait tout à l'heure ? Et dans quelle position, délicate mais aussi puissante, cela nous met d'entendre et de retranscrire par rapport à ce qu'elle vient dire et de l'art de transformation que rajouteriez-vous ?
D'abord, je dirais que il y a un contrat, en fait. C'est un contrat, l'histoire de l'entretien. Elle le dit peut-être pas là, mais peut-être qu'elle le dit ailleurs. Hein. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un et qu'il me parle, il sait très bien, enfin, il y a un cadre.
Le cadre.
Le cadre a été fixé, donc il sait très bien que je vais, entre guillemets, hein, utiliser sa parole. Et ça, pour moi, ça ne peut marcher que si lui aussi il m'utilise. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a très peu de gens qui ont l'occasion, en fait, comme ça, de parler, etc. Donc pour moi, ça marche à partir du moment où la personne va utiliser en quelque sorte l'occasion qui lui est donnée de parler à quelqu'un de sa propre vie, de faire une sorte de point. Et finalement, on a assez peu l'occasion de le faire. Brusquement, un auteur lui offre l'occasion d'aller parler de soi-même. Et c'est peut-être un peu précieux aussi pour cette personne. Donc voilà, il y a d'abord cette histoire de contrat qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on se co-utilise l'un l'autre. Et voilà. Et l'autre chose, parce qu'elle, je crois avoir compris qu'elle disait que les gens parlent de la même manière les uns et les autres. Alors là, je suis pas du tout.
Alors en fait, c'est assez confus. En effet, enfin, il y a une petite confusion. Je crois qu'elle dit que on parle grosso modo de la même manière toute sa vie, mais que les moments où le langage de l'homme, de l'âme, affleure réellement, ce sont les moments de la proximité avec la mort et le moment du désir amoureux. On pourrait considérer que c'est très discutable qu'on parle de la même manière toute sa vie.
D'abord, je ne sais pas. Ça, je crois que je pourrais pas dire si on parle de la même manière toute sa vie. Ça, c'est là vraiment, je sais pas. Par ailleurs, c'est l'expression. Bon, mais ça, c'est peut-être aussi lié à la traduction. Le langage de l'âme. Bon, moi, j'y crois pas trop. Enfin, je veux dire, je sais pas ce que c'est que le langage de l'âme. J'irais presque plutôt le langage du corps, à la limite, que le langage de l'âme. Mais bon. Là, c'est des questions plus, peut-être qui sont des questions plus culturelles aussi.
Peut-être qu'elle parle d'une forme de proximité avec la vérité, dont il est un peu plus question dans l'éloge des bâtards. À quel point on est en mesure de dire la vérité sur ce qu'on est, sur ses origines.
Par exemple, ça, ouais. Par exemple, moi, je crois pas du tout à cette histoire de vérité. Je pense que, enfin, dans le contrat que j'ai avec la personne qui m'écoute, tout ce qu'il me dit est vrai. Au sens où, puisqu'il me le dit, à partir du moment où c'est énoncé comme tel, je vais pas aller chercher, enfin, la question de savoir si c'est vrai au sens où si ce qu'il dit
c'est
a
vrai
vraiment
parce
eu
que
lieu.
C'est énoncé.
Voilà, c'est vrai parce qu'il me le dit. Voilà, c'est ça, c'est très 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 important aussi dans le dispositif. Donc il y a ça. Et la troisième chose qu'elle dit pas, mais elle le dit parce qu'elle elle parle de la manière dont elle va utiliser les 50 pages, parce que moi aussi j'enregistre, moi aussi je transcris entièrement, etc.
Pour l'éloge des bâtards aussi.
Ah ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment. Et ça, c'est très, très important. C'est l'endroit où ce que la personne dit brusquement va résonner avec ce que je vis ou ce que je pense ou quelque chose. Et parfois, c'est pas la chose la plus importante que la personne a dite que je vais retenir au sens. Et ça, en fait, c'est l'idée aussi de ces entretiens, c'est de faire confiance à cette intuition-là, qui est que brusquement, quelqu'un va parler. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter telle chose qui n'est pas très importante, mais. Ah! Et là, c'est là, c'est-à-dire dans un détail. Non. Donc, de faire confiance à cet endroit d'intensité qui n'est pas forcément l'endroit d'intensité pour la personne qui parle, mais qui est l'endroit d'intensité pour celle qui écoute.
Et qui devient l'endroit d'intensité pour le texte.
Et qui devient l'endroit
d'intensité. C'est là aussi le déplacement vers la littérature dont parlait Alexis Vick. C'est que l'enjeu n'est pas uniquement la retranscription de la parole directe, mais l'entrée dans un texte en littérature. Et dans ces cas-là, ça déplace un petit peu les choses.
C'est ça. C'est-à-dire que l'endroit de cette intensité va être le cœur, le nœud, de ce qui va être raconté et donc va déterminer l'ordre et tout, enfin va tout déterminer. Donc là, en plus, bon, c'est vrai que moi j'ai fait des entretiens aussi pour ce livre, mais c'est un peu particulier parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, d'habitude je fais des entretiens avec des gens que je ne connais pas. Donc il y a quelque chose d'un peu facile, on va dire. Au
ah,
sens...
les bâtards copains, en fait, c'est les bâtards amis copains, dont vous parliez tout à l'heure.
Les bâtards,
et
je les connais,
le
quoi,
livre.
En fait. Hein. C'est pas n'importe qui. Donc là l'enjeu est considéré. Enfin, c'était assez difficile à écrire ce livre. Parce que là, l'enjeu, c'est de parler de gens que je connais. Bon, pas tous, hein. Mais il y en a certains que je connais vraiment assez bien.
Ça devait être étrange, ce genre d'entretien.
Très étrange.
Finalement, ce que vous racontez du dispositif, entre guillemets, pour employer un grand mot, mais de l'écoute, du lien entre celui qui parle, celle qui parle, celui qui écoute, nuit après nuit, de qu'est-ce qui se tisse, c'est aussi le réel de la manière dont ce livre s'est écrit.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, et puis, ce qui est toujours, enfin, là, le fait que ces gens, je les connaisse, Bon, ça, de toute façon, la responsabilité, on l'a. C'est-à-dire qu'on a un sentiment de... On a une responsabilité envers celui qu'on a écouté. Mais là, ça se double d'une, d'un enjeu affectif qui est très fort. Effectivement, ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est que ces choses que ces gens m'ont racontées, des fois, je les savais un petit peu, mais jamais en ces termes. Donc il y a quelque chose qui se tisse, comme vous dites, nuit après nuit. Enfin, ça c'est pas, on n'a pas fait les entretiens la nuit forcément, mais qui se tisse et qui est lié à cette espèce de lien qui passe par la littérature. Donc c'est vrai que c'est une expérience assez étrange. Et je dois dire que c'est aussi, j'avais envie de, comme je disais, j'essaye dans chacun de mes livres de changer un peu les règles du jeu, j'allais dire. Et ça, par exemple, ça fait partie des changements, c'est-à-dire changer aussi le dispositif en intégrant des gens que je connais très bien. Et c'est beaucoup plus difficile, évidemment, parce qu'en fait, même pour celui qui parle, c'est tellement plus facile. Bon, bah, voilà, la psy est passée par là, hein, mais c'est tellement plus facile d'aller s'adresser et d'aller adresser des choses très intimes à quelqu'un qu'on ne connaît pas et en général qu'on ne reverra jamais. Donc il y a cette espèce de chose totalement suspendue, alors que là, bah, ça entre en lien et en jeu dans des relations.
Et donc, vous arriviez avec des questions ou vous arriviez simplement disponible ?
J'ai toujours, c'est un peu les deux, c'est-à-dire que donc d'abord je raconte ce que je veux faire, et ça s'appelait déjà, c'était déjà présenté comme un éloge des bâtards. Pour aussi pas les mettre dans une situation où, puisque quand même je leur demandais de raconter quelque chose sur le fait qu'ils sont des bâtards, ce qui est un mot qui est quand même pas très valorisé en général, et donc qui aurait pu un peu les heurter. Donc j'expliquais que d'emblée, oui, le terme de bâtard, c'est ça que je veux réhabiliter en fait dans mon livre aussi. C'est comment la bâtardise devient une qualité. Qu'est-ce que c'est que cette qualité? D'où elle vient? Comment elle s'est construite? C'est ça ma question. Donc ça, je leur dis au début. Et puis non, je pose des questions. Hein. Je pose des
questions. Vous leur demandez quoi?
Non, mais ça, c'est les secrets de l'entretien. Okay. Non, mais ah, attendez, oui, non, je sais même obligé, plus. Hein. Mais, je sais plus par quoi. Ça dépend des gens, enfin...
Mais le fait qu'ils en viennent tous à parler quand même d'une forme de filiation, d'un rapport aux ascendances, d'un rapport aux origines, ça vient par le mot bâtard.
En fait, je pense que le point de départ, si j'essaye de réfléchir, j'ai plus trop en tête tout le temps, mais c'est quand même vraiment de les interroger sur le sens qu'ils donnent au terme de bâtard et s'ils se reconnaissent ou non comme bâtard. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est assez rare que quelqu'un se reconnaisse comme bâtard. C'est pas... personne n'est un bâtard. Il y en a pourtant beaucoup, hein. Mais si on essaye de nommer l'autre comme bâtard, ça marche pas. Donc c'est tout le travail, c'était de voir pourquoi t'es un bâtard, pourquoi t'es pas un bâtard. Et en réalité, c'est vrai que le terme même, sa définition, bon, si on peut dire que bâtard, c'est avoir des origines incertaines, et les formes que ça prend sont assez différentes suivant les personnes. Donc c'était...
Et les époques aussi. Oui. Probablement. On va écouter justement Pierre Descargues.
Alors les bâtards en grec, ça se disait notos. Et notos voulait dire né d'une esclave ou d'une concubine. Et quand on prend un dictionnaire français, très récent, l'année précédente je pense, on trouve à bâtard ceci. Bâtard se dit de quelqu'un né de parents qui ne sont pas mariés légalement. Il y a un an, je pense, que cette définition a été imprimée. Donc bâtard, cela signifie... quelqu'un qui est né d'un dérangement de l'ordre de la lignée. Et puis à côté, bien sûr, cette cassure, on la retrouve dans roture, puisque roture vient du latin ruptura, il y a là une cassure. Le bâtard, donc, c'est une sorte de pâté dans une belle page d'écriture. C'est aussi fait avec de l'encre, ce pâté. Alors, toutes les lettres sont faites aussi avec de l'encre, mais là, c'est une tache. Et c'est vrai que cette déviation trouble complètement le langage. On dit... enfant naturel. Et c'est Gide, André Gide, qui disait « Seul le bâtard a droit au naturel ». Mais l'enfant naturel, il est naturel parce qu'il est rendu à la nature et qu'ainsi, il est exclu de l'ordre social. Mais si le mot « bâtard », la bâtardise, ont été l'épouvantail, ont impliqué le désordre, il semble qu'aujourd'hui, son impact soit un peu moins fort. Et peut-être que notre société... quelque part se définit par son moindre intérêt pour la différence entre la nature et la société. Peut-être aussi que notre époque devient plus philosophe, comme on disait, au sens que prend ce terme, quand il ressemble à tolérance, pour ne pas dire indifférence.
Avec ma gueule de métèque, avec ma gueule de métèque, avec ma gueule de métèque.
Avec ma gueule de métèque, ma ganache de négréron, toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous je serai franc, franc impossible, dans le rang impossible. Votre morale au crime, qu'on me délaisse de mon ego. Ça me rend psych sur l'écran, ça me rend psych dans mon flow. Et là y'a plus d'idéaux, et donc je deviens accro à la suffisance, la violence est là pour vous braves gens. J'en ai trop. Avec ma gueule de métèque, mon œil de prédateur, en phase avec son temps, j'ai poussé sans tuteur. Poussé comme une mauvaise herbe, comme un monde croit tout seul. Qu'on me dicte mon attitude, vous la gère. C'est la merde, c'est la merde.
Avec ma gueule,
avec ma gueule de métèque, un pistolet qui s'est bastonné, à qui on a pris tout volé, si peu donné. J'ai pris des branlés par un père déserteur, au point d'en espérer qu'en enfer y'ait du bonheur. La perception atrophiée, et c'est pas votre moralité qui m'a habillé. Parce qu'anormal est l'isolement dans lequel j'ai pu nager, dans lequel on m'a plombé, auquel personne n'a jamais voulu rien changer. Avec ma gueule de métèque, approuvé par la passion, mon sacerdoce c'est ma mission. Et si récompense il y a, mon cœur me guide au trépas. Rien n'est acquis, je n'ai toujours pris ça, ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Olivia Rosenthal.
Avec ma gueule,
avec mon air aigré la mer, galbé comme un fil de fer, affûté pour la guerre, je roule pour la maison mère. Avec ma gueule, je fais bénèque, j'ai pas une ganache, dieu grec. Il est possible qu'on m'arrête, ou par erreur qu'on m'affrète. Avec ma bouche qui a trop bu, mon air obtus qui pue la rue. Cette façon d'être à l'affût, et en même temps d'être à la rue. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver. Avec mes rêves de délinquant, mes coups de sang incessants. Avec ma gueule de métier, héritière d'une sur François Denne. Je veux pas finir en victime, ni même finir à freine. Avec son visage, ses yeux verts, tout me rapproche de ma mère. Tout m'éloigne de mon père, grâce à qui j'ai ce goût amer.
Avec ma gueule de...
C'est à ce moment-là que ça m'apparaît, que ça me revient. La première fois que j'ai eu le flash et que j'ai entendu des voix. Quand j'habitais encore en plein centre-ville, au marché, devant l'étal du poissonnier. Alors que je ne m'y attendais pas. Sa vie mêlée à la mienne, sa voix qui me traverse, l'effroi, la fuite, le retrait, ma rencontre avec Fox, puis avec Oscar, Foule et les autres, mon entrée dans le groupe, la destruction de la passerelle, les projets urbanistiques qui nous dépossèdent de toute connivence et de tout voisinage, nos échanges, nos activités, nos banquets nocturnes. Toute la logique de cet enchaînement se révèle à moi parce que le poissonnier, je m'en souviens maintenant, était un orphelin, un abandonné. Il était comme Fox, et comme Macha, et comme les autres. Il m'avait touché. Il avait été le premier vers qui mon esprit s'était tendu, l'un de ceux qui m'appellent et que j'écoute et que j'entends. C'est étrange comme certains événements majeurs se tiennent là, en attente d'une parole qui les mettra en relation avec d'autres événements et leur donnera la place qu'ils méritent. La voilà. La place. Celle que prend le poissonnier et que prend Sturm l'un avec l'autre et l'un par l'autre. La place de ceux que je n'arrive plus à appeler autrement parce que je veux retourner le nom terrible qu'on leur donne et m'en affubler comme d'un magnifique vêtement, les bâtards. Voilà qui nous sommes. Nous sommes les bâtards. Les agents du désordre, les petits malins, les clandestins, les équivoques, les insaisissables, les coriaces et les indomptables. Olivia Rosenthal, après Joey Starr, c'est un extrait de votre éloge des bâtards, et on entendait juste avant une archive de 1980 de Pierre Descargues qui réfléchissait à l'origine de ce mot-là et revenait à l'idée que, au départ, il désigne le fils d'une esclave et le désordre. Tous ces êtres qui viennent finalement bousculer l'ordre familial, l'ordre social, on y revient finalement. C'était le début de notre entretien, organiser le désordre, lui donner à ce désordre une forme et une belle forme. Ce mot-là, il finit par être l'emblème de leur groupe. Il finit par finalement devenir leur étendard. Comme si votre texte était aussi une manière de retourner les insultes.
Ah oui, c'est très important. Et c'est aussi, ce qu'on entendait comme archive, c'est effectivement de considérer le désordre comme une source vive, en fait. Comme ce qui nous permet de résister, de créer, d'inventer. Enfin, cette nécessité de ne pas être réduit à quelque chose qui est déjà formaté, normé. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose sur quoi je travaille depuis longtemps, au fond. Mais là, en écoutant l'extrait, j'avais l'impression que c'était vous qui l'aviez écrit. Alors, je me dis, ah ouais, quand même, ouais, j'y suis allée quand même. J'ai dit vraiment ce que je pensais. Je sais pas comment dire. Il y a une espèce de... C'est vrai que quand on écoute le texte lu par quelqu'un comme ça avec cette voix, on se dit ah ouais, il y a une émotion qui m'a traversée, vous voyez, par exemple. Je me suis dit ah ouais, j'ai été dire quelque chose auquel je crois vraiment, en fait, qui est la force subversive et de la parole, puisque c'est de ça dont il s'agit, et de la parole de ceux qui n'ont pas la parole et qui, quand ils l'apprennent, nous apprennent vraiment quelque chose sur le monde qu'on ne savait pas. Et que c'est pour ça que je dis oui, j'aime les bâtards, je ris avec ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire aussi tout ce que ces gens qui ont dû s'arranger avec leurs origines difficiles sont obligés d'inventer au jour le jour, et comment ils apprennent à s'adapter à des conditions qui sont contre eux, en fait. Et donc c'est ça aussi que raconte le livre, c'est comment on réussit à renverser, comme vous dites, l'insulte, c'est-à-dire, enfin, pour moi, c'est très important de dire, bah oui, bah, ces bâtards, ils ont une force que les autres n'ont pas, et que j'aimerais bien, de temps en temps, avoir moi aussi. Donc, et donc, je suis en attente de ce qu'ils m'apprennent. Ils m'apprennent énormément de choses, à chaque instant. Donc, le livre raconte ça, en fait. Comment leur manière d'être, leur force, leurs activités, enfin, puisque oui, c'est là dans le bouquin, c'est quand même, il y a aussi une fiction qui est, ce sont un peu des activistes, et
on y viendra,
voilà, et donc comment qu'est-ce qu'ils sont capables de fournir comme énergie, en fait. Je pense que être bâtard oblige à avoir beaucoup plus d'énergie.
Tout à l'heure, Svetlana Alexievitch, dans cette archive, disait l'intérêt qu'il y a pour elle dans le texte littéraire à nouer la parole qu'elle a entendue aussi avec une époque. Il se trouve que ce livre, il paraît dans un monde où les identités figées, les schémas familiaux, la question des origines, de la biologie de ces origines, de l'ordre, de manière générale, est extrêmement prégnante. Je ne vais prendre pour espace-temps que la France. Olivia Rosenthal, vous publiez ça dans un moment où, précisément, il fait pas toujours bon être un bâtard.
Ah oui, je sais pas si c'est pire qu'avant, ou parce que là, dans l'archive de 1980, on a l'impression que...
C'est tout cool.
Il parle de la tolérance.
Ouais.
Je pense que...
Probablement qu'il n'a jamais fait bon être un bâtard.
Non. Là, pour le coup, j'ai du mal à parler à leur place, mais il faudrait savoir comment des bâtards d'aujourd'hui vivent ça. Il me semble quand même que aussi, il y a de plus en plus d'enfants qui sont fabriqués autrement, donc c'est des questions qui sont quand même en même temps un peu plus abordées. Enfin, mais il n'en reste pas moins que ça reste quelque chose de pas simple de ne pas connaître ses origines. Je me suis rendu compte en interrogeant toutes ces personnes. C'est-à-dire que moi, je le vois comme une liberté, puisque c'est ça dont ça parle.
Oui, à un moment donné, vous imprimez en capital, je crois, dans le texte, « Exit la famille ».
C'est ça. Donc je vois ça comme une liberté, mais une liberté qui a été imposée, en quelque sorte. Donc moi, je le vois comme ça, mais en parlant avec toutes ces personnes, je me suis rendu compte que oui, c'est quand même aussi un travail qu'ils ont fourni. Alors et que donc ça a exigé beaucoup d'eux. Donc c'est pas simple.
J'élargissais aussi le sens de bâtard et de bâtardise, notamment en écoutant Joey Starr, mais à toute forme de désordre, à toute forme de porteur désordre ou de porteuse de désordre. Il faut quand même rappeler que votre texte, il s'inscrit dans une ville où les choses sont normées, où on interdit aux gens de se réunir, où on leur, l'urbanisme et les projets d'urbanisme contraignent leur, leur vie. Les bâtards ne sont pas que ceux et celles qui ne connaissent pas leurs origines, mais aussi celles et ceux qui ont des projets de désordre.
Oui. Non, oui, donc c'est vrai que de ce point de vue-là...
Ou, on va dire, les bâtards, ça peut être aussi les jeunes hommes et les jeunes femmes qui viennent de Guinée ou de Syrie pour essayer de vivre une autre vie sur le sol français, par exemple.
Oui, c'est vrai que de ce point de vue-là... c'est d'ailleurs, je pense que c'est pas tout à fait innocent d'écrire ce livre aujourd'hui, même si... J'avais pas délibérément un message politique à faire passer, c'est pas du tout ça. C'est simplement que on est, alors là pour le coup c'est aussi ce que raconte le livre, donc je vais être obligée de le répéter, mais c'est vrai qu'on est traversé par ce qui nous arrive, que les écrivains sont des éponges aussi, qui sont poreux à ce qui se passe, et que le sentiment que j'ai en tant que citoyenne, c'est que je suis de plus en plus contrainte par des tas de choses. Et il se trouve que j'ai fait un séjour assez long au Japon. Et j'ai découvert...
On va rendre hommage à la Villa Médicis et...
Voilà, et la Villa Kujoyama. Mais ce qui m'a beaucoup intéressée et un peu inquiétée, parce que ça a été assez compliqué en fait de rester là-bas, c'est le nombre de choses interdites qui sont affichées partout dans l'espace public, mais partout. Donc on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, en fait, cette espèce d'univers de contraintes... qui est au Japon, mais qui est dans d'autres endroits, mais là, vraiment, que j'ai éprouvé comme une chose extrêmement difficile à vivre, extrêmement difficile, et donc...
Et vous n'avez pas trouvé des petites communautés qui se réunissaient le soir de manière un peu souterraine,
alternative? Il y a des lieux... En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que la résistance, c'est une chose, finalement, ça se fait pas par le haut, la résistance. Ça se fait par le bas, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est des choses très locales. C'est des gens, effectivement, qui se réunissent. Alors, justement, beaucoup la nuit, qui vont dans certains bars, etc. Mais c'est vrai que la lutte est assez inégale. Et au fond, c'est aussi ce que j'avais envie de faire. C'était un peu aussi l'éloge des choses petites. Je crois beaucoup au fait que les choses petites sont beaucoup plus fortes que les choses grandes. Donc,
si on est nombreuses et nombreuses à croire aux choses petites...
C'est ça. Donc, effectivement, on est dans des espaces, dans des vies, dans des villes qui sont extrêmement contraintes. On l'a oublié, mais voilà, les sens interdits, tout est interdit. Et donc, quel est le petit espace dont on dispose pour faire quelque chose? Et faire quelque chose, c'est à la fois faire, parce que vraiment, ils ont des actions. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi dégager du temps, en fait, tout simplement. Dégager du temps pour se parler les uns aux autres. Ça, déjà, c'est hyper subversif. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, d'ailleurs au Japon, où j'ai essayé de faire des entretiens pour un autre livre, je me suis rendu compte que non, en fait, personne ne parle en son propre nom. C'est pas possible, c'est très compliqué.
C'est aussi des questions extrêmement culturelles au Japon, de ne pas parler en son propre nom,
mais
de
hiérarchie. C'était très intéressant, c'est-à-dire que moi qui viens tranquillement en disant « bon bah voilà, est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire ?» ou je sais pas quoi, je me rends compte qu'en fait c'est ça, parler en son propre nom, c'est la chose la plus difficile que je demandais à quelqu'un là-bas, et je me suis rendu compte que oui, c'était totalement subversif, donc il fallait trouver... Donc, en fait, mon travail là-bas était de trouver des moyens pour que quand même les gens arrivent à raconter des choses personnelles, et c'était pas facile. Voilà où on en est. C'est-à-dire que finalement, parler en son propre nom devient une activité très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on le fait la nuit. Parce que le jour, on n'a plus le temps, parce qu'il y a d'autres choses, parce qu'on n'a pas le droit, enfin voilà.
Et c'est ce qui relie les êtres qui font finalement communauté dans votre roman. Olivia Rosenthal, à ce propos, on écoute Jacques Rancière.
Moi, je dirais qu'il n'y a pas simplement des individus et des collectivités, il y a des manières de faire communauté. Ce qui se distingue, effectivement, ce sont des manières de faire communauté. Effectivement, il y a une manière de faire communauté qui consiste à dire, bon, bah, tout le monde vote pour des gens qui les gouvernent, et puis voilà, ça, c'est une manière de faire communauté. Et puis, bon, il y a des manières manière qui pensent que bon, la démocratie, c'est quelque chose qui passe aussi par des processus spécifiques, des formes de rassemblement, des formes de contrôle qui sont justement différentes de cette espèce de, disons, de, d'incarnation de la collectivité dans un pouvoir central que par ailleurs on pourra déclarer aristocratique ou démocratique. C'est un autre point. Et puis je pense que oui, il y a des questions au fond de, des manières de faire communauté qui jouent, qui donnent un rôle bon, très très différent à un certain nombre de structures collectives. Bon, par exemple, le fait que le travail soit une espèce de structure collective, que ça définisse en quelque sorte des sujets possibles, des intervenants dans, dans le... Bon, bah, ça, c'est une question qui est, c'est quelque chose qui a joué un rôle très important dans un certain nombre de pays européens et qui a été au cœur un petit peu, malgré tout, de l'idée de démocratie. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, dans ce qu'on nous propose, par exemple, bon, bah, on nous propose une loi qui, en gros, considère bah, qu'au fond, le travail, c'est une question individuelle, voilà, que chaque individu va pouvoir organiser un petit peu sa carrière. Bon, ben bah, voilà, là, il y a des enjeux sur des manières différentes de faire communauté, ce qui est quand même paradoxal dans toute l'affaire européenne. C'est quand même une collectivité qui essentiellement, disons, a pour doctrine et pour pratique, disons, la pulvérisation de toutes ces espèces de structures, de formes de vie collective. Bon, service public, protection sociale, loi sociale. Et je crois que c'est quand même là la contradiction bon, fondamentale. On nous demande de faire collectivité aujourd'hui avec des pouvoirs qui fondamentalement sont des pouvoirs individualisants, parce que l'individualisme de masse, c'est une plaisanterie. Bon, les pouvoirs individualisants, aujourd'hui, c'est les pouvoirs dominants, c'est les pouvoirs financiers, les pouvoirs gouvernementaux.
On saturait la ville de signes invisibles. On ferait pleuvoir des plumes du haut des tours de la cité. On déposerait des nids géants devant la gare centrale. On mettrait des sachets d'herbe sous enveloppe et on les enverrait à tous les habitants de la ville. On clouterait les sabots de très gros sangliers sous nos semelles et on piétinerait de nuit les abords du nouveau chantier jusqu'à ce que les autorités, craignant une attaque de bêtes sauvages, interrompent provisoirement les opérations de construction. On défilerait de midi à 15h avec des pancartes sur lesquelles il n'y aurait rien d'écrit et avec des porte-voix placées devant nos bouches muettes. Bel avenir, par les Villars, Olivia Rosenthal, et juste avant un extrait de votre texte « Éloge des bâtards », un extrait du côté du manifeste, du tract, de l'intention activiste, et encore juste avant une archive de Jacques Rancière en 2015, tout en énergie, qui parlait de la constitution de la communauté politique, quand par ailleurs règnent des pouvoirs dominants qui sont particulièrement individualisants, et donc de la grande difficulté à faire du collectif, à faire de la communauté, de la rencontre, puisqu'on disait tout à l'heure que la ville que vous imaginez réduit les possibilités de ça, quand par ailleurs tout en force draine vers l'individualisation. Alors qu'est-ce que vous diriez de leurs intentions politiques à ce petit groupe que vous avez réuni, ce petit groupe de bâtards ?
Ben bon, alors au sens strict, puisque c'est la fiction raconte comment ils essayent de résister à la construction d'un nouveau chantier qui va permettre l'érection d'une nouvelle tour, et donc au sens strict, ils essayent de retarder l'avènement de cette tour, etc. Bon, ça c'est. Et donc sur le plan politique, je dirais que ça, pour moi, ça va de pair avec l'idée de ménager des espaces de liberté, ne serait-ce que des espaces délaissés. Voilà, est-ce qu'on peut encore imaginer des endroits où les espaces sont délaissés, des espaces intercalaires, donc il y a quelque chose un peu sur le, je dirais même sur le plan de l'organisation du territoire. Donc ils essayent d'intervenir sur ça, ce qui n'est pas évident. Et puis je dirais que comme vous l'avez lu tout à l'heure, il y a aussi un côté un peu poétique, mais au sens fort, pas au sens galvaudé du terme, c'est-à-dire de faire effraction dans la ville pour que brusquement quelque chose apparaisse qui n'est plus là, ou qu'on ne voit plus, ou qui est devenu invisible. Et voilà, de rendre visible ou de rendre visible quelque chose, peut-être aussi de l'absurdité d'une ville, ou de l'absurdité des manières dont on circule. Enfin, c'est-à-dire que quand même on est tous très obéissants, l'air de rien, même s'il y a des réactions, etc. C'est extraordinaire quand on se promène n'importe où dans le monde de voir à quel point
fluide, en fait.
Ouais, c'est d'une fluidité. Par exemple, à Hong Kong, je reviens là-dessus, il y a beaucoup de monde, et jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était d'une fluidité incroyable. C'est-à-dire que les gens marchent tous dans le même sens, il y a aucun souci, quoi, en fait. Donc l'activité de ces bâtards, c'est de mettre un petit grain de sable dans le bon fonctionnement de cette voilà, de la ville, et par là même de montrer qu'il y a quelque chose qui va pas là. Il va falloir qu'on revienne à, enfin, qu'on trouve d'autres moyens, parce que sinon on va arrêter de penser, en fait. Donc c'est,
je sais pas si c'est un appel, mais il me semble, dans mes souvenirs, je suis en train de réouvrir le texte, qui se termine sur le mot indocilité.
C'est ça.
J'ai bien raison. Merci beaucoup, Olivia Rosenthal. Éloge des bâtards est publié aux éditions Verticales.
Merci.
Ce soir, à la prise de son, c'était Alain Joubert, à la réalisation Lise-Marie Barré. Jeanne Aléos, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riandet composent l'équipe de Par les temps qui courent. Vous pouvez réécouter cette émission quand vous voulez sur franceculture.fr, l'appli Radio France et la podcaster aussi. Enfin, si vous vous abonnez, tout ça se fera très naturellement chaque jour et chaque nuit. Dans un instant, c'est le journal de 22h.
Elle serait encore cap de se carapater. Elle monte, putain, je te dis. La joie, celle qui va nous engloutir, celle qui va nous balayer. Je sens qu'elle pointe le bout de son pif.
Vous voulez ma... complètement. Va falloir s'accrocher.